Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Il y a pas mal de miasmes en ce moment. J'ai la voix un peu prise, j'espère que ça va aller, ça va pas trop vous gêner. Pour ce temps de prédication, en effet, où on va continuer notre parcours dans l'épître aux Hébreux. Voilà, on est dans une série de prédications suivies sur l'épître aux Hébreux. Et on a vu un certain nombre de choses déjà. Jusqu'à présent, dans les chapitres précédents, on nous a présenté Christ, beaucoup, hein. Christ qui est supérieur en tout par rapport à ce qui avait été préparé dans l'Ancien Testament, qui est supérieur à Moïse. On a vu que, eh bien, Christ est un souverain sacrificateur et un prophète plus grand que Moïse, qu'il est maître de sa maison. Puis on a vu aussi des choses sur nous-mêmes, hein, que nous avons eu le salut en Jésus-Christ. On a eu une belle démonstration, enfin une belle exposition plutôt de Luc sur le salut. Qu'est-ce que c'est le salut en Jésus-Christ? Et puis on a vu quelque chose d'incroyable, c'est que Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères. Ça, c'est quelque chose, je trouve, toujours formidable de lire ça. On a peine à le croire parfois, mais c'est une réalité. Le focus, il a été placé sur Christ et sur ce que nous sommes en Jésus-Christ. Vivre le repos, c'est un peu le thème de cette prédication, et c'est intéressant ce que vient de partager Joël à l'instant. Et on va voir à quel point c'est important. Alors, je ne sais pas si, j'imagine que ça vous est déjà arrivé sur l'autoroute de vous retrouver, de rouler, et puis tout à coup, on voit les warnings qui s'allument sur les voitures de devant. Alors, je ne sais pas quelle est votre réaction. Quelle est votre réaction? Alors, moi, en général, je sursaute parce qu'il y a Aurélie à côté qui fait attention! Donc, le cœur s'accélère. Faut une ou deux secondes pour retrouver son calme. Mais bon, on se remobilise vite parce que sur l'autoroute, ça va vite. On se concentre. Et puis surtout, bah, qu'est-ce qu'on fait quand il y a les warnings des voitures devant? À un moment, on est censé comprendre qu'il faut freiner. Et voilà, il faut anticiper le freinage parce que si les personnes devant allument les warnings, là, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un ralentissement, il y a un accident, il y a quelque chose. Mais en tout cas, il faut freiner. Et c'est intéressant de voir dans certains textes de la Bible les auteurs qui ont écrit sous l'inspiration de l'Esprit, et dans certains textes, ils nous ont mis des warnings. Des warnings, et ça veut dire en général, attention, là, il y a quelque chose d'important. Attention, voilà, il faut être concentré, hein. Et souvent, ces warnings, bah, c'est des choses qui vont être répétées dans le texte plusieurs fois. Donc, je vous propose de lire notre texte. Donc, on est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, à partir du verset 7. Et je vous propose de. Donc, je ne vais pas l'afficher, mais si vous voulez chercher, sinon vous pouvez écouter. Et simplement d'essayer pendant la lecture de repérer ces warnings. Voilà, je fais la lecture. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc, dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'est un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ pour vous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit « Je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà un texte qui est assez long, avec pas mal de choses, et il faut faire un peu le tri. Alors je vais vous projeter le texte. C'est bon, vous arrivez bien à lire, c'est bon ? Alors vous inquiétez pas, le but c'est pas que vous puissiez lire, mais je vais projeter un peu les warnings que nous avons dans notre texte. Et le premier warning qu'on a, et qui revient quatre fois, et trois fois exactement avec la même formule, c'est « n'endurcissez pas vos cœurs ». Ensuite, on a un deuxième warning, pareil, quatre fois et trois fois avec la même formule, c'est « aujourd'hui, si vous entendez ma voix ». Je ne sais pas si vous les aviez repérés. Et ensuite, on a un troisième chose qui n'est pas vraiment un warning, mais c'est plutôt la raison des deux premiers warnings, qui est la question du repos. Et là, ça arrive quand même beaucoup de fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fois. J'en ai peut-être oublié, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, on sent qu'il y a quand même une insistance assez lourde, au sens, voilà, on veut appuyer la chose. Et donc, c'est important. Et à travers ce texte, eh bien, je voudrais qu'on voit l'importance de croire avec foi et obéissance en la parole de Dieu pour entrer dans son repos. Alors c'est parti, premier warning que l'on rencontre, c'est « n'endurcissez pas vos cœurs ». Et le texte commence par « c'est pourquoi » avant de dire « n'endurcissez pas vos cœurs ». Et ça fait référence à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Qui est Christ? La supériorité de Christ, ce Dieu tout-puissant qui est venu accomplir la mission de salut et notre position en Jésus-Christ. Hein, nous sommes la maison de Dieu, nous sommes son peuple, nous sommes ses frères. C'est quelque chose d'assez phénoménal, tellement important, tellement beau. Et suite à ce qu'il a dit, il dit « c'est pourquoi n'endurcissez pas vos cœurs ». Et pour donner du sens à son warning, eh bien, il va prendre en fait le mauvais exemple du peuple d'Israël dans le désert. Et quand il dit « n'endurcissez pas vos cœurs le jour de, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert », ça fait référence à un psaume, le psaume 95. Alors, on ne va pas le lire, on n'a pas le temps de le lire, mais lisez-le ce soir ou dans la semaine et vous verrez que c'est vraiment tous les thèmes qu'on a dans notre texte. Donc, c'est sans doute ce qui a inspiré notre auteur. Le peuple d'Israël, il a passé 40 ans dans le désert. Et durant ce temps, alors que Dieu prenait soin de lui, le guidait, l'accompagnait, l'a sorti, l'a libéré de l'esclavage de l'Égypte, eh ben, le peuple a de nombreuses reprises. Il s'est révolté contre Dieu, il a désobéi, il s'est plaint. Et les mots sont forts. Hein. Ils me tentèrent pour m'éprouver, un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Ils parlent de ceux qui péchaient, de ceux qui ont désobéi. Ça va assez loin, c'est bien plus qu'une simple désobéissance. C'est une véritable révolte contre Dieu. C'est un véritable rejet de Dieu. D'où ce premier avertissement, n'endurcissez pas vos cœurs. Et moi, je me pose parfois la question, quand je repense à ce peuple d'Israël, je me dis, mais comment c'est possible qu'il ait à ce point endurci son cœur? Il a vu l'action de Dieu miraculeuse pour le faire sortir d'Égypte. Il a vu les plaies d'Égypte, comment ils ont fui l'armée qui était à leur poursuite, comment Dieu a permis l'ouverture de la mer Rouge. Ils ont traversé à pied sec. La mer s'est refermée sur l'armée égyptienne. Dieu leur a fourni la manne, des cailles pour se nourrir. Ils n'avaient qu'à se baisser le matin en se levant. Je dis, mais ce n'est pas possible de pas juste dire, mais suivre ce Dieu merveilleux. En fait, c'est toujours le même problème. Hein, on connaît, hein, on le redit souvent, et c'est important de se le rappeler, c'est le problème du cœur de l'homme qui est mauvais. Et c'est ce cœur mauvais qui empêche de voir Dieu, qui empêche de le suivre. Dans Jérémie, au chapitre 17, on peut lire « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Le problème du peuple à la sortie d'Égypte, c'est qu'il a été sauvé de l'esclave des Égyptiens, mais il n'avait pas connu une véritable régénération du cœur. Et malheureusement, c'est le cas pour chacun d'entre nous. On est marqué par le péché dès notre naissance. Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. D'où la nécessité d'avoir un cœur nouveau, on va en parler un petit peu après. Par son sacrifice, Jésus nous a lavés de nos péchés, il nous donne un cœur capable de lui obéir. Parce qu'en fait, l'endurcissement du cœur est très lié à la désobéissance. Et la conséquence de cette désobéissance, eh bien, c'est « ils n'entreront pas dans mon repos ». Le repos, c'est pour le peuple d'Israël, c'est le projet de Dieu. En fait, dans tout notre texte, tout mène à ça, tout mène au repos. Et finalement, la désobéissance mène au contraire de ce qu'on voudrait. Dans la vie, de tout à chacun, on peut vivre des difficultés, on peut se trouver confronté à des problèmes, à des conflits. Et ce qu'on cherche, bah, c'est la résolution de ces conflits. On cherche le bonheur, on cherche la paix. Et finalement, eh ben, sans Dieu, en lui désobéissant, bah, c'est le contraire qui arrive. Et le peuple, eh bien, il n'a pas connu ce repos à cause de sa désobéissance. Et c'est pour cette raison, eh bien, qu'on est appelé à prendre soin les uns des autres. Hein. Dans le texte, il nous l'est dit, hein, « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » Et on sent dans cette demande une sorte d'urgence, une sorte de nécessité absolue. C'est presque une question de survie, en fait. « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse. » Il y a la volonté de prévenir de l'endurcissement du cœur causé par le péché, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Parce que c'est ça que fait le péché. Il nous éloigne de Dieu et veut nous rendre indépendants de Dieu pour qu'on reste esclave du péché. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres.
pour se rappeler les vérités bibliques, les bénédictions de Dieu, pour ne pas s'égarer, pour ne pas laisser la place au péché. Hein ? Vous connaissez ce chant, pour les petits, on leur apprend ce chant, toc, 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 quelqu'un frappe à la porte. Et c'est le mal qui voudrait une place. Non, 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 mon cœur lui est fermé. Une place. Mais c'est un peu, c'est assez, bon, les chansons pour enfants bibliques, enfin, chrétiennes, on va dire, c'est réducteur, mais finalement, c'est pas si bête. Hein, parce que une place, le péché, il a besoin souvent d'une petite place. Hein. Il ne demande pas d'arriver en grande pompe. Hein. Le péché, non, j'ai pas besoin de grand-chose. Une petite place. Parce qu'il sait qu'après, il va pouvoir se développer facilement. On doit combattre ça. Et on a besoin les uns des autres pour ça. Alors pourquoi eh bien, on ne doit pas laisser le péché endurcir notre cœur? Eh bien, parce que nous appartenons à Christ. Et ça va plus loin. On participe à ce qu'il est, à sa vie sainte, à son sacrifice. On l'a dit, Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères, parce qu'en fait, on est ses compagnons de voyage. On partage son parcours, son destin. Notre sort, il est lié à celui de Christ. Alors, est-ce qu'on est conscient déjà de ça, qu'on a, pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, est-ce qu'on est conscient qu'on appartient à Christ, qu'on est ses compagnons de voyage? Et est-ce qu'à ce titre, on est conscient des moments dans notre vie où on laisse place au péché? Est-ce qu'on prend le temps parfois? Et c'est quelque chose qui m'interpelle particulièrement en ce moment. Je suis en train de lire un petit livre qui s'appelle « La mortification du péché ». C'est un auteur du 16e siècle, je crois. Bref, c'est il y a longtemps. Et il dit c'est combattre et aller rechercher quels sont les péchés dans notre vie qui sont là, et même surtout ceux qui ne sont pas trop visibles, qu'on a moins conscience. Il faut aller à la recherche pour les combattre et pour leur donner la mort, en quelque sorte. Donc, est-ce qu'on identifie bien les péchés que nous devons combattre? Est-ce que même, sous prétexte parfois de servir Dieu, on ne s'autorise pas des comportements que Dieu n'approuve pas? Je me suis posé la question aussi. Parfois, on se dit, si, je dois faire ça, et c'est comme ça, et puis on peut peut-être mal agir. Alors, je vous laisse trouver des exemples pour vous-même. Voilà, est-ce que je ne suis pas parfois dans cette attitude? N'endurcissez pas vos cœurs. Et c'est pour cela que l'auteur nous appelle à écouter la parole avec foi. Dans les mises en garde donc, de l'auteur, hein, jusqu'à présent, on voit très bien qu'il y a une corrélation entre le cœur mauvais et la désobéissance. Et notre désobéissance, en fait, elle est liée à notre incrédulité. C'est cette incrédulité qui nous amène à nous détourner de Dieu. Ne pas croire en lui, en fait, ça nous pousse à croire en nous-mêmes et en fait à chercher nos propres solutions. C'est de dire « j'ai pas besoin de Dieu, je vais me débrouiller tout seul ». Et des exemples comme ça, on en a de partout dans la Bible. Et ça commence dès le jardin d'Éden. Que fait le serpent? Est-ce que le serpent il propose à la femme des choses qui vont la séduire, qui vont créer de la convoitise chez elle? Non, non, non. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que tu es vraiment sûr d'avoir bien compris? Tu crois vraiment que c'est ça qu'il voulait dire? En fait, il va plus loin. Il dit, tu crois vraiment que ce que Dieu dit, c'est vrai? Dieu a-t-il réellement dit? Non, parce que Dieu... Voilà, ça, c'est pas la vérité. Hein. C'est ce que dit le diable. Dieu sait que si tu manges de ce fruit, tu vas être comme lui. C'est pour ça, il veut te cacher des choses. Ne crois pas en ce qu'il te dit. Voilà ce que fait le péché. Il nous pousse à désobéir à cause de l'incrédulité. Et dans le pays, pour le peuple d'Israël, Ça a été la même chose. Moi, pendant donc il a passé 40 ans dans le désert, c'est un jugement de Dieu. Et moi, pendant longtemps, quand j'étais petit, je croyais que c'était à cause de l'épisode du veau d'or. Parce que moi, je disais, ouais, le veau d'or, c'est vraiment ça peut pas passer, quoi. Dieu, il les a punis à ce moment-là. Eh bien non, c'est pas à ce moment-là. C'est quand le peuple d'Israël, et donc pour la première fois, est arrivé aux portes du pays promis, que ils ont envoyé des espions pour un peu voir comment était ce pays. Et quand ils sont revenus, sur 12 espions, il y en a 10 qui ont dit « Waouh, c'est un pays incroyable, c'est vrai, il y a plein de belles choses, mais il y a des géants, il y a plein de choses comme ça, et ça va être terrible, on ne va pas réussir, on ne va pas y arriver. » Le peuple d'Israël n'a pas cru dans la promesse de Dieu. Dieu leur avait promis qu'ils entreraient dans le pays promis et qu'ils prendraient possession de ce pays. Ils n'ont pas cru en ça, et à cause de cela, à cause de leur incrédulité, de leur désobéissance, hein, du coup, parce qu'ils n'ont pas voulu entrer dans ce pays, ils ont passé 40 ans dans le désert. Et suite, dans le Nouveau Testament, suite à l'incrédulité de Thomas, hein, qui ne croyait pas que Jésus était ressuscité, une fois que Jésus apparaît à lui, il lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et heureusement, on a aussi des exemples positifs dans la Bible. On a Abraham, dont on nous dit qu'il a été déclaré juste, non pas par ses œuvres, non pas parce qu'il a suivi Dieu, mais parce qu'il a cru. Toujours dans l'Épître aux Romains, car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, un peu plus tard, on verra les héros de la foi. Et moi, il y en a un que j'aime particulièrement, c'est Rahab. Parce que c'est pas quelqu'un à qui on penserait comme étant un héros de la foi, c'est une prostituée. Et justement, quand le peuple d'Israël, finalement, au bout de 40 ans, vont entrer dans le pays et vont vouloir attaquer Jéricho, il y a deux espions qui vont rentrer dans le pays. Et Rahab, qui a entendu parler de ce peuple et surtout de son Dieu, va croire en ce Dieu et va dire « Moi, c'est ce Dieu-là que je veux suivre. » Elle va les aider et elle va être sauvée parce qu'elle a cru. Alors, l'auteur de l'Épître nous appelle donc à écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, mais qu'est-ce que c'est ? C'est Jésus-Christ, Dieu fait homme, qui vient sur terre pour nous représenter, pour mourir à notre place, prendre sur lui la condamnation qu'on méritait à cause de notre péché et nous donner la vie éternelle, la vie avec Dieu. Et c'est en étant dans une attitude de non-endurcissement du cœur et donc de foi que nous pouvons l'écouter et surtout la mettre en pratique. Parce que la foi, c'est quoi ? C'est croire. Ça va jusque-là, en général, on est d'accord. La foi, c'est croire. Mais c'est aussi obéir. Et nous en sommes capables parce que Dieu, on l'a dit tout à l'heure, nous a donné un cœur nouveau. Dire qu'on a accepté l'évangile, mais ne pas progresser avec Christ dans la sainteté, bah, ça montre qu'on n'a pas bien compris ce que c'était le véritable évangile. Dans Ézéchiel, voilà la promesse de Dieu. Donc Ézéchiel, un prophète de l'Ancien Testament, bien avant la naissance de Jésus, « Je répandrai sur vous, c'est au chapitre 36, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Il y a vraiment une différence entre entendre l'évangile et y répondre avec foi et persévérance. D'où l'exemple des Israélites, une nouvelle fois, qui ont entendu la voix de Dieu. Et le texte nous dit, on ne trouvera pas la foi chez eux, chez ceux qui l'entendirent. Il y a le pardon des péchés et le fait de suivre Christ. Alors, pourquoi croire dans la parole de Dieu ? Pourquoi croire pour nous ? Pourquoi croire dans la Bible ? C'est dit à la fin du texte, hein, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. D'autres textes nous parlent de la parole dans la Bible. Il y en a deux que j'aime bien. Dans Ésaïe 55, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole de Dieu, ce n'est pas juste des mots. C'est quelque chose qui est puissant et qui agit. De Timothée 3,16 nous dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » On voit bien que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui... C'est pas juste, vous en faites ce que vous voulez. En soi, la parole est agissante. Elle agit en nous, elle nous corrige, elle nous montre ce qu'il faut changer. Christ est la parole. Dans Jean, au chapitre 1, pour moi, je crois que c'est mon passage préféré de la Bible, le chapitre 1 de Jean, je trouve tellement poétique et tellement beau, et tellement... nous montre la gloire de Dieu, je trouve. Ça, c'est mon ressenti, mais en tout cas, c'est un beau passage. Et Christ est défini comme la parole. Dans la Genèse, c'est intéressant de voir comment Dieu a créé le monde. Si on devait faire un film de Dieu qui crée le monde, je suis sûr qu'il prendrait des choses, il ferait un certain nombre de trucs très visuels. Pour créer le monde, Dieu parle. Dieu dit et la chose s'accomplit. Et quand on voit la vie de Jésus et les miracles qu'il fait, c'est intéressant aussi de voir comment il guérit les malades. Et dans bien des cas, pas toujours, mais dans bien des cas, simplement il parle. Lève-toi et marche. Et nous croyons que Christ est la parole, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, et qu'à ce titre, quand on lit la Bible, on n'engrange pas juste des informations. On laisse Dieu agir en nous. La parole de Dieu est vivante et efficace. Alors, on arrive finalement au but final. Hein ? Pourquoi tout ça ? Ne pas endurcir notre cœur, croire en la parole, nous conduit au repos. Et le repos, c'est un terme théologique très important. Alors, je ne sais pas si peut-être que certains d'entre vous ont suivi les cours d'IBG Online avec Tom Blanchard. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi avec Tom Blanchard. Bon, Tom Blanchard, c'est un prof, il aime bien parler des cloches. Il dit que quand on lit la Bible, il y a des fois, on doit entendre les cloches sonner. Et il y a certains mots dans la Bible, comme le mot repos, comme le mot rédemption, par exemple, comme le mot chute, ça doit faire sonner des cloches en nous. Hein. Je ne sais pas si vous avez un téléphone portable, vous pouvez changer les sonneries, attribuer une sonnerie à des contacts, ce qui permet que quand il y a une certaine sonnerie qui sonne, on sait que c'est telle personne qui nous appelle. Là, c'est un peu la même chose. Et le mot repos, quand vous lisez dans la Bible le mot repos, vous devez dire que les antennes elles doivent sortir et il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. On ne va pas pouvoir toutes les voir, mais on va essayer de voir un peu ce qu'on peut tirer de ce mot repos. Donc dans la Bible, il est fait mention du repos dans toute la Bible. Ça commence avec Genèse 2. D'ailleurs, le texte nous en parle. Lorsque Dieu a fini la création, la Genèse nous dit « Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Première mention du repos. Une autre mention du repos importante, c'est quand Dieu institue le sabbat. D'accord ? Le sabbat a été institué par Dieu comme une loi pour le peuple. Donc le sabbat, c'est le septième jour, un jour de cessation de travail où on se repose de son travail à l'image de Dieu pour la création, institué par Dieu lui-même. Et ce jour est censé être un jour de repos, mais aussi qui doit faire laisser place au culte, au ressourcement. La création, le sabbat. Et puis si l'on en vient au peuple d'Israël, Dieu leur avait promis le repos dans le pays de Canaan, le pays promis. j'ai oublié. Donc, la création, le sabbat. Dieu leur avait promis le repos, et après toutes les péripéties qu'ils avaient vécues, ils devaient vivre vraiment ce repos dans ce pays. C'était, on peut le trouver dans Deutéronome, chapitre 12. Vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Il y avait cette promesse d'entrer dans un pays et de pouvoir vivre en paix sans être attaqué de toutes parts. Et c'est en ça que le peuple n'a pas cru, surtout la première fois. Et une fois qu'avec Josué, sous la conduite de Josué, donc, qui a pris la suite de Moïse pour conduire le peuple, ils sont entrés dans le pays, ils ont conquis le pays. Voilà ce que dit, voilà ce qui est écrit. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Cette promesse de repos, elle est réelle. Le problème, toujours, il y a toujours des problèmes hein, avec l'homme, malheureusement, c'est que d'une part, le peuple d'Israël va oublier l'Éternel très très vite. La génération qui suit Josué, donc Josué a conduit le peuple dans le pays, la génération d'après, le texte nous dit, déjà, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ça aussi, ça, c'est un avertissement pour nous-mêmes hein, de parler de l'Éternel à nos enfants et de leur apprendre à vivre avec Dieu. Donc le peuple s'est privé du repos de Dieu puisqu'ils ont laissé Dieu de côté, ils sont débrouillés tout seuls. Et d'autre part, au fur et à mesure de l'histoire du peuple, les chefs religieux ont fait du sabbat une règle légaliste et l'ont vidé de son sens profond qui est de se reposer en Dieu. Alors, quel sens on peut donner à ce repos dans notre texte ? D'abord, on peut voir que le repos, il est promis à ceux qui obéissent, qui croient et qui obéissent. C'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont placé leur confiance en lui. Ça concerne les chrétiens. Et puis, on peut voir aussi qu'il y a une assurance d'entrer dans ce repos pour ceux qui croient. Voilà. Pour ceux qui croient. Et ce repos, comment il se caractérise ? C'est Jésus lui-même qui en parle dans Matthieu 11, à partir du verset 28. Voilà ce que dit Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le repos dont parle le texte est à destination de ceux qui croient en Jésus, qui ont entendu accepter le message de l'Évangile avec foi et qui y obéissent. Donc, qui n'endurcissent pas leur cœur. On en revient à notre premier warning, le but final, c'est le repos. Et c'est intéressant cette notion de joug. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un joug, on n'en voit plus beaucoup hein, aujourd'hui. C'est ce qu'on met sur les bœufs hein, pour les attacher. Ensemble. Et une fois, on m'a expliqué que quand il y avait un jeune bœuf, on le mettait toujours avec un bœuf plus âgé, expérimenté. Et ce qui permettait au jeune bœuf d'être un peu aidé par le vieux bœuf quand c'était difficile. Et que le bœuf qui avait plus d'expérience, quand le jeune fou il voulait aller un peu vite, il le freinait et il apprenait à marcher à la même vitesse que le bœuf expérimenté. Et c'est ce qu'on est appelé à faire avec Jésus, marcher à sa suite en tant que compagnon de route, mais c'est aussi nous laisser diriger par lui, savoir quand est-ce qu'il faut peut-être un peu accélérer, quand est-ce qu'il faut ralentir un peu. Alors concrètement, le repos, ça veut dire quoi ? C'est quand même avant tout la paix avec Dieu, on en a parlé, Joël en a parlé durant sa présidence. Par le salut en Jésus-Christ, nous avons acquis la paix avec Dieu. Mais c'est aussi une vie déchargée d'un certain nombre de problématiques. Avoir le Seigneur avec nous à tout instant. Donc vivre avec Christ, on en a parlé à sa suite. pouvoir lui confier nos soucis, nos besoins et connaître la paix au plus profond d'entre nous. Et je pense qu'on peut tous témoigner qu'on connaît des gens dans notre entourage qui n'ont pas cette paix, quoi. Qui vivent dans la crainte, dans l'angoisse même. Moi, j'ai été frappé quand il y a eu la dissolution du gouvernement. Il y a quelques... je ne sais plus si c'est des mois, des années, des semaines. Mais tellement ça bouge tout le temps. Mais en tout cas, d'entendre vraiment l'effroi, l'angoisse de certaines personnes, peut-être à juste titre. Mais nous, nous avons cette paix par rapport à l'avenir. Savoir que nous avons un Dieu qui se soucie de nous, qui répond à nos besoins. Ça, c'est le repos en Dieu. Alors, évidemment, et la présidence et le temps de chant et autour de l'Église persécutée nous le montre. Ça ne veut pas dire qu'on a une vie sans problème. Hein. Et évidemment, on doit prier pour nos frères chrétiens qui sont dans la tourmente. Ça ne veut pas dire ne plus avoir de problème et vivre un bonheur total. Nous vivons toujours dans un monde qui est dans le péché, qui subit les conséquences de la chute, mais Jésus nous a donné une espérance. Et c'est ça le repos aussi. C'est avoir l'espérance d'un jour le retrouver. Étant donc justifié par la foi, encore l'Épître aux Romains, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. En fait, dans la parole de Dieu, et dans un certain nombre de domaines, on est confronté à la tension entre le déjà et le pas encore. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, le déjà, le pas encore. Le royaume de Dieu est déjà venu, mais il n'est pas encore pleinement manifesté. Nous sommes déjà enfants de Dieu, mais on n'est pas encore dans la gloire avec Dieu. La victoire sur le mal est déjà remportée, mais elle n'est pas visible totalement, en tout cas dans ce monde. Nous sommes déjà justifiés, on est vu juste par Dieu, mais pas encore sans péché. On continue à pécher dans ce monde. Nous vivons déjà dans le repos, mais pas encore de façon totale. Et même dans l'Ancien Testament, il y avait une conscience pour les auteurs de l'Ancien... Pour les auteurs de l'Ancien Testament, il y avait une conscience de l'attente d'un repos plus grand, supérieur à celui même connu du temps de Jésus. Un repos éternel. Un repos parfait qui serait vécu dans la présence de Dieu. Et dans un commentaire, j'ai lu quelque chose qui m'a frappé. Il parle toujours de la création et du passage qui nous dit que le septième jour, Dieu s'est reposé. Pour les autres jours, c'est écrit, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour, par exemple. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Mais pour le septième jour, le jour où il est dit que Dieu se reposa, il n'y a pas écrit, c'est écrit. Il y eut un soir et un matin. C'est comme si il y avait cette idée d'éternité, de repos éternel de Dieu. C'est ce repos qu'on est appelé à vivre et à attendre avec espérance et persévérance. En Christ, on vit déjà le repos par le pardon de nos péchés, par la nouvelle naissance, par le don du Saint-Esprit, par la prière aussi, qui est tellement importante. De pouvoir prier, s'adresser à Dieu, lui confier nos problématiques, le louer. Ça, c'est le repos en Dieu. Mais le repos final et éternel ne sera vécu que dans la présence complète et définitive de Dieu. Donc, après notre mort ou au retour de Jésus-Christ. Pour l'instant, on vit un temps de grâce où nous pouvons encore entrer dans le repos de Dieu. Mais un jour, ce sera trop tard. D'où l'appel aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, si vous entendez ma voix. Alors pour conclure, l'incrédulité du peuple dans le désert doit être un avertissement pour nous de ne pas tarder à croire en la parole de Dieu, en Jésus-Christ. C'est vrai pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas croyants, qui n'ont pas placé leur confiance en Jésus-Christ. Il y a une urgence de pouvoir croire dans ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Il a donné sa vie pour que vous puissiez vivre ce repos éternel avec Dieu. Et je vous invite, si dans cette salle, il y a quelqu'un qui est dans ce cas, à considérer vraiment ce que Jésus a fait pour vous. Le Dieu créateur de l'univers, qui n'a besoin de rien, qui n'a pas besoin de nous, mais qui nous aime d'un amour infini, a donné sa vie pour qu'on puisse passer l'éternité avec lui, dans son repos. Et puis, c'est un avertissement pour nous aussi, les croyants. D'ailleurs, ce texte s'adresse à ceux qui croient. On peut passer à côté du repos de Dieu sur cette terre. On peut, si vous êtes en Christ, si vous appartenez à Christ, vous vivrez le repos éternel. Mais parfois, est-ce qu'on ne passe pas à côté du repos, du déjà, du repos qu'on peut avoir ici sur terre, en voulant se débrouiller tout seul? Combien de fois je me suis retrouvé à ressentir du stress à cause d'une situation et à essayer de chercher, de travailler, de réfléchir. En fait, au bout d'un moment, je dis, mais tu n'as même pas prié, en fait. Tu n'as même pas dit à Dieu ton besoin. Et on passe bien souvent à côté de la paix de Dieu. Le problème, c'est que ça peut générer de la frustration, de l'angoisse, de la peur, de la colère. Combien de fois on se prive de la paix de Dieu et en nous monte une colère contre des personnes, contre des situations. Nous ne nous privons pas du repos en Christ qui est déjà accessible. Alors, voilà, c'est la phrase du début. Croyons avec foi et obéissance en la parole de Dieu pour entrer dans son repos. Amen.